Prenons l'image d'un homme qui a tout perdu. Absolument tout, quoi.
Ouais, le genre de tragédie totale.
Exactement. Et au plus profond de son désespoir, cet homme y décide de s'emparer du contrat cosmique de sa propre existence, de le déchirer en mille morceaux sous les yeux de l'univers et ben d'exiger une annulation pure et simple de sa vie.
C'est terrifiant, c'est vraiment vertigineux comme concept.
C'est clair. Et c'est exactement ce qui se produit au chapitre 3 du livre de Job. D'ordinaire, les vieux récits de souffrance y nous tracent une ligne assez réconfortante, genre une épreuve, une endurance stoïque et puis une belle leçon de morale à la clé.
Oui, le prologue de Job nous laissait d'ailleurs espérer cette simplicité-là.
Sauf que là, cette illusion de contrôle, bah, elle vole en éclats. Donc, l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de plonger dans les chapitres 3 à 14 de ce texte monumental. Et on va s'appuyer sur les recherches du docteur John Walton pour ça.
Tout à fait. On va observer une transition d'une brutalité inouïe.
Bon, décortiquons tout ça. Comment est-ce qu'on passe du patient parfait, qui acceptait tout en silence, à un procureur rebelle, prêt à traîner le créateur devant un tribunal cosmique? Et pourquoi ses amis se transforment en tortionnaires dogmatiques?
Bah, pour bien saisir la violence de cette rupture, il faut d'abord observer la mécanique littéraire de l'œuvre. Le texte lui-même, il nous avertit que les règles du jeu ont changé, en fait.
Ah bon? Comment ça?
Bah, le prologue, c'était une narration en prose, c'était calme, très distant, raconté par un observateur. Mais dès le chapitre 3, la structure, elle bascule d'un coup dans une poésie brute et un discours direct.
Ouais, on passe de la troisième à la première personne, quoi.
C'est ça. Ce n'est plus un conteur qui nous parle de la souffrance de Job, c'est Job lui-même qui hurle sa douleur. Et la poésie dans le Proche-Orient ancien, c'est pas là pour faire joli, hein. C'est le langage de l'intensité émotionnelle maximale.
Le truc qu'on utilise quand les mots normaux suffisent plus.
Exactement. C'est le genre littéraire qu'on emploie quand la réalité devient beaucoup trop écrasante pour être contenue dans de simples phrases descriptives.
Et c'est justement cette intensité qui m'a frappé en lisant les notes sur le chapitre 3. Job brise un silence de 7 jours. Et quand j'ai lu qu'il maudit le jour de sa naissance, ma première réaction c'était de me dire, d'accord, il jure, il insulte le destin, il est en colère.
Ouais, c'est la réaction normale quand on lit ça aujourd'hui.
Mais en regardant les recherches linguistiques de Walton, on voit que le terme maudire ici, c'est infiniment plus lourd qu'un simple accès de colère, n'est-ce pas?
Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une lecture moderne, très réductrice de voir ça comme un simple juron, tu vois. L'hébreu ancien possède plusieurs concepts bien distincts et nos traductions ont tendance à tout écraser sous le seul mot maudire.
Ouais, on perd toute la nuance.
Totalement. Par exemple, il y a le verbe barak. C'est super intéressant parce que barak, fondamentalement, ça signifie bénir.
Attends, bénir, pour dire maudire?
Eh oui, c'était parfois utilisé comme un euphémisme absolu. Pour éviter d'écrire ou de prononcer une malédiction directement associée à Dieu, les scribes écrivaient bénir, en sachant que le lecteur comprendrait l'ironie du truc.
Ah ouais, un peu comme dire quel grand succès quand tout a raté, quoi.
C'est ça. Ensuite, on a kalal. Ce terme-là, il relève davantage de l'incantation verbale, genre l'idée d'utiliser des mots de pouvoir pour rabaisser quelqu'un, diminuer son statut.
D'accord, donc là c'est plus agressif.
Sauf que Job, il utilise ni l'euphémisme, ni la simple insulte. Il emploie un troisième terme qui est infiniment plus dangereux. Il utilise harar.
Et c'est là que ça devient, enfin, vraiment vertigineux. En quoi ce mot harar, il change la donne?
Harar, c'est pas une expression de colère, c'est une action cosmique. Ça signifie retirer activement quelque chose ou quelqu'un de la sphère de protection et d'ordre établie par Dieu.
Ouf, c'est lourd.
Ouais, pour comprendre l'effroi que ça suscitait, il faut se replonger dans la mentalité du Proche-Orient ancien. Pour eux, le monde naturel s'était perçu comme une menace constante, un chaos perpétuel qui était contenu uniquement par l'ordre divin.
Donc, si l'ordre lâche, c'est la fin de tout.
Exactement. Le cycle des saisons, le lever du soleil, l'agriculture, tout ça tenait du miracle. L'ordre était synonyme de vie et le chaos, de mort. Donc, en utilisant harar, Job demande littéralement que le jour de sa naissance soit retiré du calendrier cosmique.
C'est comme s'il demandait à être décréé, en fait.
C'est tout à fait ça. Il veut que ce jour soit englouti par les forces du non-ordre.
C'est ce qui explique son invocation de Léviathan dans ce même passage. Je veux dire, j'avais toujours cru que c'était juste une métaphore poétique, genre pour parler d'un gros monstre marin un peu effrayant.
Bah, beaucoup de gens pensent ça, mais Léviathan représente bien plus qu'une simple bête. Dans l'imaginaire mythologique de l'époque, c'est la personnification suprême du chaos primordial.
La force qui détruit tout.
Ouais, la force qui menace de défaire la création entière. Et comme la vie de Job est devenue un chaos innommable, une souffrance, bah, sans aucune structure logique, il estime que la création a échoué en ce qu'il concerne.
Du coup, il invite la créature du chaos à venir dévorer son existence à la racine. C'est super sombre, en fait. Il demande une désintégration totale.
C'est le mot. Il veut retourner au néant.
Mais en lisant ça, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. S'il souffre tellement, pourquoi il ne demande pas simplement à mourir pour aller au paradis? On s'attendrait à ce qu'il cherche refuge dans une vie après la mort, non?
Alors ça, c'est une projection de la théologie d'époque bien ultérieure sur un texte très ancien. Les Israélites de cette période, et à plus forte raison un non-israélite, comme l'était Job, ben ils n'avaient aucune conception d'un au-delà fait de récompense.
Aucun paradis, rien?
Non, pas de félicité éternelle. Leur vision de l'après-vie se limitait au Sheol. Et le Sheol, c'est ni l'enfer ni le paradis, c'est juste, ben, la fosse, quoi.
Donc un endroit un peu vide, neutre.
C'est un monde d'ombre, de poussière, de silence absolu, où tout le monde, les rois comme les esclaves, finit par disparaître dans l'oubli.
Quel est donc quand Job réclame la mort? C'est en aucun cas l'espoir d'une justice après coup.
Pas du tout. Il n'y a pas de chœur d'ange qui l'attend, tu vois. Il cherche juste l'anesthésie du néant. La mort, c'est une porte de sortie de secours. C'est pas une résolution de son problème de justice.
D'où cette avalanche de « pourquoi ?» dans son discours. Hein. Pourquoi la lumière est-elle donnée aux malheureux? Pourquoi suis-je né? C'est un désespoir absolu, parce qu'il n'y a aucun horizon.
Ce qui est normal dans sa situation. Et ça soulève le cœur même du livre.
Sauf que, si je peux me permettre, si le livre ne répond pas à ce fameux pourquoi, à quoi il sert ce texte?
Bah, ce qui est fascinant ici, c'est que le livre sert justement à nous montrer que pourquoi c'est la mauvaise question.
La mauvaise question, vraiment, hein? Mais ça m'amène à une contradiction qui me pose un énorme problème de logique depuis le début de cette exploration.
Vas-y, je t'écoute.
Le texte et la tradition insistent vraiment lourdement sur le fait que Job est intègre, qu'il maintient cette fameuse intégrité. Or, on vient de voir qu'il hurle au chaos, qu'il invoque Léviathan, et on sait qu'il va bientôt accuser Dieu de trucs innommables.
C'est vrai que ça paraît contradictoire.
Comment un homme qui remet en cause l'architecture même de la création, comment il peut être qualifié d'intègre? Mon cerveau moderne, il hurle que c'est l'antithèse absolue de l'intégrité, ça.
C'est parce qu'il faut déconstruire notre définition moderne de l'intégrité pour résoudre ce paradoxe, en fait. Nous, on a tendance à assimiler l'intégrité à la perfection morale, à la politesse, ou genre à une foi soumise et complètement silencieuse.
Ouais, le gars parfait qui bronche pas, quoi.
Mais dans la dynamique spécifique du livre de Job, l'intégrité, ça désigne quelque chose de chirurgicalement précis. C'est la revendication inflexible de Job selon laquelle sa droiture est désintéressée.
Ok, c'est-à-dire qu'il n'est pas un homme bien juste pour obtenir des récompenses.
Si l'on relie cela à la vision d'ensemble du prologue, c'est exactement ça. Faut se rappeler, l'accusateur lance un défi à Dieu. Il lui dit « Job ne te sert que parce que tu le protèges et le rends riche. Enlève ses biens et il te maudira. »
C'est un pari sur ses motivations profondes, en fait.
Exactement. Est-ce que la religion de Job est une transaction financière ou est-ce qu'il agit avec justice simplement parce que la justice a une valeur intrinsèque? Tant que Job refuse de céder là-dessus, tant qu'il clame « j'étais droit sans rien attendre en retour », il maintient la seule intégrité qui importe pour le récit.
D'accord, donc il a le droit d'être en colère, de sombrer, de dire des trucs complètement fous sur Dieu.
Il a même le droit de se tromper sur la nature de Dieu. La seule ligne rouge qu'il doit surtout pas franchir, c'est d'avouer de faux péchés, dans le seul but, très cynique, de récupérer ses troupeaux et sa santé.
Waouh ! Sa douleur, elle prouve l'authenticité de sa vertu du coup. C'est une redéfinition hyper radicale de ce que signifie être croyant ou même juste humain.
De soi-disant pour le consoler, sont parfaitement incapables de concevoir.
Ah, les fameux amis. Prenons le premier cycle de leur dialogue. Eliphaz, il prend la parole en premier. Et à première vue, j'ai trouvé qu'on avait l'impression d'entendre un sage bienveillant, tu sais, une figure un peu paternelle qui essaie de rassurer Job.
C'est le vernis, ça. Mais l'analyse linguistique de Walton, elle révèle une mécanique de condescendance redoutable sous cette apparence.
Ouais, c'est subtil, mais c'est violent.
Très violent. Sous la compassion, c'est une attaque intellectuelle en règle. Le chapitre 4, verset 6, c'est le meilleur exemple. La traduction classique, elle adoucit souvent le propos, genre... Ta piété n'est-elle pas ta confiance et l'intégrité de tes voies ton espérance ?
Ce qui sonne super positif, genre « Souviens-toi de ta foi, Job, ça va aller ».
Sauf que la réalité du texte hébreu, mise en lumière par Walton, c'est une véritable flèche empoisonnée, tu vois. Eliphaz, il est en train de dire ça. Cette piété que tu t'attribues toi-même, n'est-elle pas la base de cette confiance irrationnelle ?
Ah ouais, le tacle glissé. Il remet en cause la perception que Job a de sa propre droiture.
Exactement. Il soutient pas Job, il diagnostique une forme d'illusion. Il lui dit que sa certitude d'être innocent, bah c'est le cœur même de son problème.
Et Eliphaz, il s'arrête pas là. J'ai trouvé la suite de son argumentaire presque comique, tellement s'exagérer.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, oui.
Grave. Pour prouver à Job qu'il a forcément tort, Eliphaz met en scène une expérience mystique, genre digne d'un film d'horreur. Il raconte qu'au milieu de la nuit, un esprit a frôlé son visage, que tous ses poils se sont hérissés, qu'il a entendu un murmure spectral.
Tout le décorum paranormal pour pas grand-chose aussi, Malef.
Mais carrément. Tout ça pour accoucher d'une révélation pseudo-divine du style « Un mortel peut-il être plus juste que Dieu ? Un homme peut-il être plus pur que son créateur ?» J'ai juste envie de dire « Ben, tout ça pour ça ?» Quel besoin d'inventer une mise en scène spirituelle aussi complexe pour asséner une banalité que le moindre paysan de l'époque savait déjà.
À savoir que les dieux sont parfaits et les hommes faillibles, oui. Mais cette mise en scène, c'est l'outil classique de l'intimidateur spirituel.
C'est-à-dire ?
Il fait ça pour l'écraser.
Eliphaz, il sait très bien que ses arguments théologiques sont super fragiles face à la réalité de la souffrance de Job. Il compense donc par une autorité expérientielle qui est impossible à contredire.
Bah oui, on peut pas débattre avec le fantôme d'Eliphaz. C'est trop facile. C'est ça l'astuce. Mais le vrai coup de grâce, il porte sur un immense problème de traduction autour du mot hébreu « tahar », qui est souvent traduit par « pur ».
Ah, j'allais y venir. C'est le moment où j'ai dû relire le passage deux fois pour être sûr d'avoir bien compris.
Bah, le concept de « tahar », il est super souvent mal compris. Il désigne pas une pureté absolue, abstraite ou morale dans son état fondamental.
C'est plutôt une action, c'est ça ?
Exactement. « Tahar », ça décrit l'action de passer d'un état impur à un état propre. C'est un processus de nettoyage, de purification, d'expiation, tu vois.
Ce qui pose un énorme problème logique avec Dieu.
Un immense problème. Dieu, par son essence même, il peut jamais, à aucun moment, se trouver dans un état impur ou déchu. Donc Dieu ne peut pas être soumis à un processus de tahar. La catégorie linguistique, elle s'applique juste pas au divin.
Ok, donc la traduction « un homme peut-il être plus pur que Dieu ?» c'est littéralement un non-sens en hébreu, vu qu'on ne peut pas comparer un processus de nettoyage humain à une nature divine qui a jamais été sale.
L'absurdité est totale. La restitution correcte de ce que dit Eliphaz, ce serait plutôt « un mortel peut-il être juste du point de vue de Dieu ?» Un homme peut-il être considéré propre dans la perspective de son créateur ?
Donc, en utilisant cette formulation biaisée avec son histoire de fantôme, là, Eliphaz tente vraiment de briser la psychologie de Job, quoi.
Ouais, il insinue que, de toute façon, le tribunal divin est truqué d'avance, que personne n'atteindra jamais le standard requis et que Job ferait bien mieux de se taire et d'accepter sa punition.
C'est du gaslighting spirituel pur et simple. T'es coupable, cherche pas à comprendre. Sauf que Job, il refuse d'être brisé.
Et heureusement pour nous, sinon le livre s'arrêterait là.
Clairement. Sa riposte dans les chapitres 7 et 13, elle est magistrale. Plutôt que se recroqueviller, il contre-attaque et il retourne l'arme même de ses amis, c'est-à-dire les textes sacrés de leur propre tradition. Le passage du chapitre 7, il est sidérant.
Il prend l'une des idées religieuses les plus réconfortantes de son époque pour en faire une scène d'horreur psychologique.
Oui. Et c'est avec ce qui deviendra plus tard le psaume 8, c'est ça ?
Exactement. Le lecteur antique, il percevait tout de suite l'ironie dévastatrice. Ce psaume 8, c'est censé être un émerveillement sur l'attention bienveillante de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?
Un cri de gratitude parce que le Créateur s'intéresse à nous.
Job détourne cette image avec une amertume féroce.
Il utilise exactement les mêmes mots. Mais l'attention bienveillante, ça devient un genre une surveillance étouffante. C'est comme s'il disait « Pourquoi tu nous accordes autant d'attention ? Lâche-moi un peu, quoi. Arrête de me tester à chaque seconde. »
C'est très oppressif, oui.
J'avais cette image très claire en lisant, tu sais. Job décrit Dieu non pas comme un protecteur, mais comme un paparazzi divin cauchemardesque.
L'image est excellente.
Un traqueur insupportable qui braque un projecteur aveuglant sur ses moindres défauts, qui campe devant sa tragédie et lui laisse même pas le temps d'avaler sa salive. Le terme « gardien des hommes », ça devient chez Job une accusation de harcèlement carcéral.
Il en déduit un truc terrible. Il se dit que si Dieu l'observe avec une telle minutie, ben c'est que son procès a déjà eu lieu à huis clos et qu'il a été jugé coupable avant même de pouvoir s'expliquer.
C'est d'une tristesse. Et cette certitude d'avoir été condamné, ben ça génère en lui une audace qui confine au suicide, je dirais.
Ce qui nous amène d'ailleurs à l'un des débats de traduction les plus cruciaux du livre, au chapitre 13, verset 15. C'est un carrefour interprétatif majeur.
Le fameux verset de l'espoir.
Voilà. La tradition a souvent chéri la traduction « même s'il me tue, j'espérerai en lui ».
La phrase ultime de l'abandon confiant, genre le truc qu'on retrouve brodé sur des tapisseries pieuses.
Sauf que le texte hébreu originel, il est beaucoup, beaucoup plus ambigu à cause de deux homophones.
Ah, la langue frappe encore.
Et oui, les particules pour dire « en lui » qui se prononce « l'eau » et pour dire « non » ou « ne pas » qui se prononce « l'eau », ben, elles sonnent de manière identique. Elles étaient souvent confondues par les copistes.
Donc, selon la version qu'on retient, le sens bascule complètement.
Radicalement. La traduction alternative, ça donne « voici, il me tuera, je n'ai aucun espoir ».
Ah ouais, wait, really, c'est l'opposé total. Le martyr confiant y disparaît pour laisser place à un homme écrasé par le fatalisme.
Cela soulève une question importante sur l'état mental de Job à ce moment-là. Où est-ce qu'on situe nous là-dedans?
Oui, où se situe le docteur Woolton dans ce débat textuel très précis?
L'approche Wooltonienne navigue à travers cette tension en captant vraiment l'essence juridique de l'attitude de Job. Il propose de traduire « même s'il peut me tuer, je ne patienterai pas en silence » ou bien « je défendrai mes voix en face de lui ».
Ok, c'est puissant. Donc il se résigne pas lâchement et c'est pas non plus le martyr béat.
Exactement. Il revêt vraiment l'armure d'un procureur rebelle. Il déclare qu'il sait pertinemment qu'affronter le Créateur, ça équivaut à une condamnation à mort, mais il préfère périr en criant son innocence plutôt que de vivre dans le mensonge de ses amis.
Il exige un face-à-face mortel dans la vérité, quoi. Et cette soif de justice absolue, elle crée un vide que la mystique manipulatrice d'Eliphas peut absolument pas combler. Et c'est là que les deux autres amis, Bildad et Tsophar, sentent le besoin de rentrer dans la danse.
Et face à l'échec de la diplomatie passive-agressive, ils sortent l'artillerie lourde. L'empathie, elle disparaît totalement là.
Observons Bildad. Lui, c'est le gardien acharné du principe de rétribution. Le truc que tout le monde croyait à l'époque. Fais le bien, tu seras récompensé. Fais le mal, tu seras puni.
Bildad illustre vraiment le danger terrifiant d'un dogme poussé à son paroxysme absolu. Pour sauver la cohérence de son petit système de croyances, il est prêt à sacrifier toute son humanité.
Faut pas oublier que Job, il vient de perdre tous ses enfants dans l'effondrement tragique d'une maison, c'est horrible.
Oui, et Bildad, en s'adressant à ce père en plein deuil, il affirme sans aucune hésitation que si les enfants de Job ont été foudroyés, bah c'est inévitablement parce qu'ils ont commis des péchés abominables.
Quelle cruauté! Son équation, elle tolère aucune exception. S'il y a catastrophe, c'est que la culpabilité est mathématiquement prouvée.
C'est d'une cruauté abyssale.
Mais pourquoi il s'acharne comme ça, Evelyne? Il voit bien la douleur de son pote, non?
C'est un mécanisme d'autodéfense psychologique, en fait. C'est très commun. Si Bildad admet une seule seconde que Job souffre alors qu'il est innocent, ça implique que l'univers est chaotique.
Et donc que Bildad lui-même pourrait être la prochaine victime innocente.
Exactement. En condamnant fermement Job et ses enfants morts, Bildad se rassure lui-même. Il se convainc que tant qu'il obéira aux règles, bah, il sera en sécurité.
Son dogme lui sert de bouclier contre l'angoisse de l'aléatoire, quoi.
C'est ça. Du coup, son conseil très cynique en découle logiquement. Avoue n'importe quel crime secret, repens-toi et tu pourras récupérer ta santé et tes troupeaux.
Des vrais gestionnaires de patrimoine spirituel. Et le troisième ami, Tsophar, alors lui, il pousse le cynisme encore plus loin.
Ah, Tsophar, il est pire.
Là où Bildad voyait une équation mathématique, Tsophar, lui, y voit carrément une indulgence divine. Il traite Job d'arrogant et va jusqu'à prétendre que Job devrait s'estimer heureux.
Oui, il dit que Dieu lui épargnerait une partie des châtiments qu'il mérite vraiment. C'est lunaire.
Ils se comportent comme des courtiers en assurance. Ils proposent à Job de régler un litige financier pour retrouver son confort matériel. Sauf que Job, il s'en moque. Il réclame ni chameau, ni nouvelle santé.
Tout ce qu'il implore, c'est une pause dans la torture. Il veut préparer son dossier juridique, trouver un avocat et obtenir un verdict équitable. Il veut restaurer son honneur, c'est tout.
Pas son compte en banque. Ce qui dresse le bilan super triste de ce premier cycle de dialogue. L'impasse est totale, la fracture, elle est irréconciliable parce qu'ils parlent juste pas la même langue.
Les amis, ils représentent l'apogée de la religion transactionnelle, tu vois. La foi vue comme un contrat d'assurance. Et ils font miroiter le retour des richesses.
Et en rejetant ça, Job prouve exactement ce que la Cour céleste observe depuis le début. La carotte matérielle, ça marche pas sur lui. D'un côté, on a cette orthodoxie glaciale qui veut forcer Job à signer des aveux. Et de l'autre, un homme privé de tout espoir de paradis, mais qui campe sur ses positions.
Il veut juste un procès équitable, prouvant ainsi la thèse principale de son intégrité désintéressée.
Il prouve à l'univers que sa droiture, bah, elle dépend d'aucun chèque de paye divin. C'est fascinant.
Mais tu sais, l'exploration de ce texte antique exige qu'on dépasse l'histoire de Job pour se tourner vers notre propre réalité. C'est le but de ce genre d'analyse.
Oh, on sort le miroir, là.
Oui, un miroir très inconfortable. Parce que si on regarde cette impasse, et si on retire la perspective de tout bénéfice, ben, que reste-t-il de nos motivations profondes?
C'est la grande question, ouais.
Si notre propre sens de la moralité, nos actes de générosité, ou même notre ferveur religieuse, ne reposent au final que sur l'attente silencieuse d'une récompense.
Que ce soit de la reconnaissance, de l'argent ou le salut.
Voilà, qu'il s'agisse d'une prospérité matérielle ou spirituelle. Si c'est ça, on doit avoir le courage de se demander en silence. Possédons-nous réellement la moindre once d'intégrité ou ne faisons-nous que signer, jour après jour, une transaction purement égoïste avec l'univers ?